La vie qu'on s'est faite, des histoires d'adoption, le balado qui vous présente des récits familiaux.
Bonjour, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Catherine Voyer-Léger, autrice, et de Sarah Paquin, qui est intervenante. Toutes deux sont également mamans adoptantes. Donc aujourd'hui, on va parler de c'est quoi adopter un enfant à besoins particuliers, un enfant de la DPJ, comme on les appelle aussi parfois. Donc Catherine, je vais commencer avec vous. Ce besoin, ce projet-là, en fait, d'adoption et ce besoin de devenir maman, comment que c'est venu et comment l'adoption s'est présentée comme une option?
Bien, je pense que pour moi, devenir mère, c'était un incontournable. Ce qui m'intéressait vraiment, moi, dans ce projet-là, c'est d'avoir la chance d'être aux premières loges d'un être humain qui se construit, en fait. Donc, le projet d'avoir un enfant biologique, admettons, n'était pas un projet incontournable. Ça ne faisait pas tellement partie de mon imaginaire de la parentalité. Et puis, comme je n'avais pas personne dans ma vie, il a fallu que je fasse un choix. Je ne me voyais pas... toute la grossesse médicalement assistée représentait une crainte pour moi. Je suis allée assez naturellement vers la Banque Mix, qui est le programme de la DPJ, là, qui permet d'être une famille d'accueil potentiellement adoptante. Donc, c'était ce qui était le plus évident pour moi.
Et quand ce choix-là a été fait, est-ce que vous en avez parlé dans votre entourage? Ça a été quoi la réaction de vos proches?
Bien, étonnamment, tant et aussi longtemps que je n'étais pas certaine que je parlais éventuellement d'une grossesse médicalement assistée, les gens voyaient ça comme un geste assez égoïste, en fait. Puis là, quand on devient une potentielle famille d'accueil DPJ, bien là, on devient une mère courage. Donc là, tout le monde trouve ça extraordinaire, puis c'est un tel dévouement. C'est très particulier parce que, pour moi, il n'y avait pas de différence dans la pulsion, tu sais. Le besoin était exactement le même, tu sais.
Oui, on ne dit pas un parent biologique, voir... Vous êtes courageux.
Pourtant, moi, je dis à toutes les femmes qui se lancent en procréation assistée, quel courage. Donc c'est ça. Ça a été plutôt perçu comme un geste d'altruisme incroyable.
Sarah, est-ce que c'est une perception aussi que vous voyez à l'association Emmanuel parmi vos membres?
Ça arrive vraiment souvent là, que les gens vont dire « Oh mon Dieu, ils sont courageux », tout ça. C'est quelque chose qui revient, tu sais, fréquemment. Là. Puis même dans les séances d'information, des fois, tu sais, les gens vont soulever ce point-là. Puis, tu sais, moi, souvent, ils me disaient, tu sais, comme maman adoptante, dans le fond, je me faisais dire, tu sais, « Ah, tu sais, ta cocotte est chanceuse d'être avec vous ». Mais non, tu sais, les chanceux dans cette histoire-là, c'est nous autres. Mm-hmm. C'est nous autres de l'avoir avec nous, cet enfant-là. T'sais.
Oui.
Il y a comme quelque chose qui se crée un peu, mais je pense que c'est toute la société un peu qui amène ça. Là.
On ne se cachera pas que derrière le mot « courage », il y a cette idée-là de il y a quelque chose qui va être difficile. Il va y avoir le courage. Je ne sais pas, quand on parle d'adoption d'un enfant puis que les gens disent « Ah, ça vous prend du courage », c'est tout de suite, ils voient juste les difficultés, les embûches. Ça serait quoi? Qu'est-ce que les gens voient?
Je pense que par rapport au programme de la DPJ, ce que les gens voient, c'est le risque que l'enfant retourne dans sa famille. Je pense pas que les gens vont tellement plus loin que ça, honnêtement. T'sais. À la base, déjà, les gens comprennent pas comment ça fonctionne. Donc, souvent, les gens vont dire « qu'est-ce qui arrive si les parents veulent reprendre l'enfant? » Mais c'est pas ça la question. La plupart des parents ont jamais voulu perdre leur enfant. Donc, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je pense que c'est surtout ça, la première couche. Après, oui, il y a des stigmates, par exemple, liés à ce que pourrait être un enfant qui a subi un début d'enfance moins, agréable ou moins facile ou moins aimant. Mais les gens voient tout de suite la fillette de Granby. Et donc, c'est souvent important de répéter que l'essentiel de ce que gère la DPJ, c'est pas... des enfants martyrs, enfin, on est ailleurs, là. Il y a toutes sortes de situations. C'est jamais des situations drôles, on n'en serait pas là sinon, mais on n'est pas toujours dans le psychodrame. Et ça, les gens le voient peu. C'est ça. Il faut faire beaucoup d'éducation, en fait.
Il y a un bout aussi où les gens vont transmettre leur propre peur, tu sais. Peur, tu sais, que justement l'enfant, tu sais, ait des comportements qui soient difficiles à gérer. Tu sais, peur qu'une fois l'adoption prononcée, que l'enfant soit repris par ses parents 10 ans plus tard. Tu sais, il y a beaucoup de mythes à défaire encore. Donc, souvent, les gens vont juste transmettre les premières peurs qui montent, puis ils vont... nous pitcher ça au visage, mais nous lancer ça au visage sans vraiment réfléchir à ce qu'ils disent.
Tout à fait. Si je ne me trompe pas, Catherine, vous me reprendrez si je me trompe, il n'y a pas de problème, mais les deux qualités, ou en tout cas que vous abordez dans un de vos livres pour devenir parent adoptant, vous parlez de patience et d'empathie.
Oui, bien, pour devenir parent tout court, je pense. Adoptant ou pas, oui. Ça serait des prérequis. C'est sûr que ce qui est lourd dans un processus comme celui-là, c'est l'administration. Donc, c'est sûr qu'en plus de tout ce que... Toute la charge mentale, en fait, de n'importe quel parent, là, moi, j'ai une charge mentale supplémentaire qui est la DPJ, en fait. Donc, j'ai la DPJ avec moi, j'ai une famille naturelle avec qui on est encore en interaction, je dois aller en cours parfois. Donc, tout ça, c'est lourd. C'est clairement lourd. Et dans mon cas, ça dure beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. Donc, c'est lourd longtemps. ça commence à être vraiment lourd.
Oui, c'est ça. Votre fille est arrivée quand même toute jeune, là. Ouais. Avec vous. Combien de mois?
Elle avait 15 mois. 15 mois. Ça va faire 5 ans, là. Donc, ça fait 5 ans que je travaille en collaboration avec la DPJ, en fait. Donc, chaque mois, j'ai des rapports à remplir. J'ai pas de droits parentaux encore, ce qui est un peu particulier à mon cas parce que j'aurais pu les obtenir bien avant, mais là, on rentre dans les détails. Donc, par exemple, quand on est allé pour le vaccin COVID, il y a eu un bug. J'avais une autorisation pourtant, mais là, les adresses fonctionnaient pas dans le système. Puis là, moi, j'ai un enfant qui attend n'est pas sa plus grande qualité, admettons. Fait que là, ça a pris 45 minutes avant qu'on ait accès au vaccin. Ah ouais. Déjà, c'était une situation stressante.
Ouais.
Donc, il y a des moments comme ça qui sont beaucoup plus lourds parce que n'ayant pas les droits parentaux, bien, des fois, la machine administrative bloque.
C'est ça. Puis dans le fond, tant que la machine est là, c'est parce que, justement, le jugement d'adoption n'a pas encore été porté. Des fois, ça se fait dans un temps plus court, mais vous, ça fait quand même 5-6 ans. Sarah, ça, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur aussi?
Bien, c'est sûr que les délais font peur. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au niveau des tribunaux, c'est un peu comme le système de la santé. Tu sais, ça ne roule pas toujours très droit. Donc, est-ce que des reports de tribunal, des changements d'intervenants, des changements d'avocats, des demandes d'évaluation, etc., ça arrive? Bien oui, il y a des dossiers, tu sais, qui sont beaucoup plus longs que d'autres. Tu sais, la loi prescrit 1 an, 2 ans aux parents pour avoir le droit de faire leurs preuves, de se reprendre en main, de reprendre l'enfant. Par contre, dans la réalité, est-ce que c'est toujours ça qui arrive? Non, malheureusement. Puis oui, c'est sûr que ça peut faire peur à certaines familles de dire, tu sais, je m'embarque là-dedans, mais je m'embarque là-dedans pour combien de temps? Mm-hmm. Puis quand on se lance en banque mixte, un peu comme j'ai fait, puis comme Catherine a fait, on l'a pas, cette réponse-là. Tu sais, souvent, à la base, on a un placement 6 mois, 1 an. Des fois, on va aller vers un placement à majorité, puis par la suite, des fois, on va avoir une adoption. Là, chaque région gère différemment, mais ça peut prendre des délais X, Y, Z qu'on n'a aucune idée.
Puis aucun contrôle.
Puis aucun contrôle, surtout, effectivement.
On a peu de contrôle. Moi, mes principales critiques, ce serait qu'on a peu d'informations. Okay. Moi, je trouve que c'est un système qui fonctionne beaucoup dans le silence,
ou
pourtant, on est famille d'accueil, on est salarié, mais on n'est pas considéré comme étant comme un allié dans ça. Et ça, pour moi, c'est un grand mystère. Puis c'est pas la faute de personne individuellement. Là, les gens sont plutôt sympathiques. Là, tout le monde est là. Mais on est comme dans un système où on ne sait jamais c'est quoi la prochaine étape, personne ne nous dit rien, là, on change d'intervenant. Là, c'est comme si on était dans un nouveau monde soudain. Mmh. Ça, j'ai trouvé ça très dur. Puis l'autre aspect qui, pour moi, est vraiment un problème, un débat qu'on entend souvent dans l'espace public, c'est la question du bien de l'enfant. La DPJ est supposée travailler pour le bien de l'enfant.
Ouais.
Là, on dit que ce n'est pas toujours le cas. Puis chaque fois que cette question-là est soulevée, c'est comme si on sous-entend qu'on s'occuperait du bien des parents biologiques plutôt que le bien de l'enfant. Mais c'est pas ça. C'est le bien de personne. Mmh. C'est qu'à un moment donné, tu as l'impression que cette machine roule, c'est une machine tellement lourde, puis qu'elle roule pour ses propres raisons, sans s'occuper du bien de l'enfant, du bien de la famille biologique. Moi, j'ai vraiment pas l'impression que la famille biologique de ma fille a été bien servie, admettons. C'est ça. C'est juste, c'est comme si la machine s'occupe de son propre bien.
sans écouter les...
C'est trop gros.
Les humains.
C'est lourd. Hey, nous, on a eu des reports là, incessants juste parce qu'il fallait faire émettre un nouveau... Chaque fois que tu as une demande à la cour, il faut un nouveau certificat de naissance. Ça peut pas être l'ancien. Là, je disais, je suis pas juriste, mais pourquoi?
Puis tu sais, j'ai envie d'ajouter peut-être un peu sur ce que tu dis, mais tu sais, c'est pas la faute d'aucun intervenant qui sont sur ces chaises-là, tu sais. Ils sont là, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les ressources qu'on leur donne, là, avec, tu sais. Mais est-ce qu'ils ont beaucoup trop de dossiers, beaucoup trop de choses à gérer, puis un système qui est pas toujours, qui est loin d'être parfait, là, on va se le dire? Mais oui, mais tu sais, les intervenants aussi ont cette lourdeur-là ouais, sur leurs épaules.
Donc, s'il y a un courage, pour moi, c'est celui-là.
Oui, OK.
Mais honnêtement, je le voyais pas avant de faire la démarche. Comme beaucoup de monde, j'étais assez dans une pensée magique, en fait. C'est-à-dire qu'on tend à se dire, moi, je vais tomber sur le cas facile, là, qui va être réglé en un an et demi, puis, tu sais. Puis pourtant, je dirais pas que mon cas est difficile. C'est juste que, c'est ça, on est pris. Il y a eu la pandémie, hein. On est pris dans une espèce de lourdeur, puis effectivement, c'est très long. Puis il faut du courage, mais tu sais, quelle est l'autre solution? Je veux dire, il n'y a pas rien d'autre à faire que d'être patient puis d'accepter qu'on n'a pas tellement de contrôle.
Mais est-ce que c'est lourd au point que des fois, vous avez remis votre choix, votre décision en question, ou c'est jamais vraiment...
Bien, c'est impossible, parce qu'au moment où tu te rends compte que c'est lourd, tu as l'amour de ta vie dans ta vie, donc... C'est ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais reculer? Je vais la renvoyer parce que c'est trop lourd.
C'est absurde. Mais je pense que ces questionnements-là peuvent monter dans la tête de certaines familles d'accueil. T'sais, moi, je le vis dans mon travail. Il y a certaines familles que j'accompagne qui m'ont déjà nommé dire hey, « je ne sais plus comment on va y arriver ». Ce n'est pas parce que l'enfant est si difficile, mais parce que tout ce qu'il y a autour fait que ça n'a plus de sens. T'sais. Mais est-ce que ces questions-là peuvent arriver dans la tête des familles? Oui. Mais comme tu dis, ils sont toujours pris entre « Écoute, on l'aime tellement, cet enfant-là, on n'a pas le goût qu'il reparte, on n'a pas le goût de le déplacer ou de demander un déplacement dans une autre famille. »
Après, moi, j'ai fait le choix de faire ça comme solo parental. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais je pense que les gens qui sont en solo, qui veulent le faire, doivent s'arrêter pour réfléchir à ça. Parce que vous avez beau vous dire, vous êtes super bien entouré, vous êtes quand même dans une situation où votre revenu DPJ vous perdra pas de lâcher votre job. Si vous, admettons là, que tout d'un coup, là, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Quand vous êtes deux, c'est plus possible d'imaginer ça, que quelqu'un se mette en arrêt de travail pour un temps, pour gérer ce qu'il y a à gérer. Moi, je peux pas faire ça, là. On a besoin de mon revenu pour vivre, malgré le soutien financier. Et donc, quand ça devient très difficile au plan émotif, j'ai un enfant qui a besoin de beaucoup de suivi, donc on a des rendez-vous, c'est lourd. C'est lourd. Et donc, je pense que... Pourtant, on nous a dit tout ça, hein, on a des formations, mais c'est ça, on se dit un peu que... C'est que l'amour, bien, c'est vrai d'ailleurs, l'amour fait tout, mais c'est ça, il faut y penser.
Ouais. Tu dis, on a déjà dit tout ça, puis d'un autre côté, tu sais, moi, souvent, je dis à mes familles en séance d'information, tu sais, avant que l'enfant arrive, vous allez dire, tu sais, moi, j'ai tout lu, j'ai parlé avec plein de monde, je suis prête.
Je suis prête à tout.
Écoute, je suis prête à tout, il n'y a plus rien qui peut m'ébranler. Et pourtant, je te dirais, 8 fois sur 10, une fois que l'enfant est arrivé dans la famille, tu sais, moi, je prends le téléphone, j'appelle les familles, je prends le pouls de comment ça se passe. Et souvent, ils vont me dire, hey, on est submergé par ce qui se passe. C'est un tsunami qui vient d'arriver dans notre vie. Tu sais, on n'a comme plus de repères, on n'a plus rien. Puis je leur dis, c'est normal. Mais tu sais, on a l'impression qu'on part et on sait tout, mais c'est tellement pas le cas.
Non, non, c'est, on le sait pas.
Non, qu'est-ce que c'est pas? On sait rien.
On sait rien. On sait des choses théoriques, mais c'est pas ce qui... Au plan émotif, c'est plus exigeant que ce qu'on s'imagine. Puis, dès les premiers jours, là, t'sais, l'accueil d'un enfant, c'est plus exigeant que ce qu'on s'imagine. Fait que, je pense qu'il faut bien s'informer, faut écouter ce qu'on nous dit.
Avoir un bon réseau aussi social qu'on peut solliciter.
Souvent, ton bon réseau, il est théorique. Il suit pas tant, tu sais. Puis t'as un bon réseau social, puis il y a une pandémie. Ben, utilise ton bon réseau social. Donc, c'est ça. C'est pas... c'est ça. Oui, je comprends ce qu'on veut dire par courage. C'est juste que, pour moi, ça veut rien dire. Parce qu'avant que l'enfant arrive, on me disait « t'es courageuse », mais non, j'ai juste tellement envie d'aimer, en fait. Puis une fois que l'enfant est arrivé, on me dit « t'es courageuse », mais quelles sont mes options? Qu'est-ce qui arrive si je suis pas courageuse? Ça peut dire, c'est pas... c'est mon enfant, là. C'est mon enfant. C'est ça.
Puis, tu sais, vous le dites clairement... Moi, à partir du moment où je l'ai accueilli, le processus d'attachement a commencé. Alors que, tu sais, des fois, on entend des parents qui ils savent pas trop se positionner par rapport à ça parce qu'ils n'ont pas de certitude que cet enfant-là va rester dans leur vie. Vous avez pas eu cette ambiguïté-là, cette ambivalence-là?
Moi, je pense pas qu'on peut se permettre d'avoir cette ambivalence-là. Moi, j'accueillais une enfant qui avait vécu dans un très grand nombre de familles dans les 15 premiers mois de sa vie. Je pouvais pas me permettre de douter. Donc, évidemment, je peux rien promettre. C'est très important de faire attention à ce qu'on dit. Mais rapidement, ce que je lui disais, c'était mon amour de toujours. Je savais que ça, je pouvais le répéter. Parce que même si elle avait dû quitter, elle serait restée mon amour toute ma vie, tu sais. Et donc, pour moi, je ne pouvais pas être dans la demi-mesure. C'était impossible. C'était un enfant qui avait déjà un trou dans le cœur immense à force d'avoir été déplacé. Le travail d'attachement qu'il avait à faire puis qu'il y a encore à faire 5 ans plus tard, il est énorme. Je ne pouvais pas me permettre d'attendre 6 mois, d'être un peu plus sûre de ce que tu sais, c'était pas possible. De toute façon, honnêtement, moi, je connais des gens qui ça a été un peu plus difficile, mais c'est souvent avec des enfants un peu plus vieux. Avec les très jeunes enfants, ton attachement, il naît dans le soin. Là.
Un enfant a besoin de toi pour survivre.
Au bout de 2 semaines, là, t'es pas mal au clou. Je trouve que c'est ça, ça vient tout seul.
Puis, tu sais, d'un autre côté, tu sais, les femmes qui accouchent, par exemple, ben, ça, tu sais, on pense toujours que, oh mon Dieu, ils l'ont vu, puis c'était l'amour de leur vie. Mais, tu sais, il y a plein de femmes qui accouchent aussi, puis qui n'ont pas ce lien d'attachement-là immédiat avec l'enfant, puis que ça se développe au fil du temps. Je pense que c'est la même chose aussi au niveau de l'adoption, là.
Bien, si je peux me permettre de vous donner un scoop, j'ai pas parlé de ça encore trop, mais on aime au printemps 2023, je fais paraître un livre pour enfants, un album jeunesse, qui s'appelle « Tu es un arbre à musique ». Puis la volonté de cet album-là est venue du fait que ma fille aimait beaucoup les livres sur l'amour parental quand elle était toute petite. Et tous ces livres-là commencent par une image d'un bébé naissant dans les bras de ses parents. Puis j'avais envie d'un livre qui raconte un attachement adoptif, en fait, puis qui axe pas sur la différence d'apparence, parce que tous les livres qui existent parlent d'adoption internationale, ce qui est bien correct aussi, mais nous, on vit pas ça, là. Moi, tout le monde me dit que ma fille me ressemble constamment. Ouais. On n'a pas du tout cette rupture-là. Donc, j'avais envie de ce livre-là, puis j'ai vu les premières esquisses, ça va être merveilleux, d'autant plus que Catherine Petit, l'illustratrice, a choisi d'illustrer une maman ronde, et ça m'a fait réaliser que c'est la première fois de ma vie que dans un livre jeunesse, je vois une maman qui est en surpoids. Alors, ça m'a beaucoup touchée, et j'ai très hâte de pouvoir vous partager ça, mais je pense que c'est important que nos enfants aussi aient leurs histoires.
Oui, ils peuvent se retrouver, dans d'autres histoires, dans d'autres parcours, dans d'autres chemins. Est-ce que, tu sais, on a parlé un peu de la lourdeur, parce que souvent aussi on entend les parents adoptants qui disent, bon, ben une fois que le jugement d'adoption est porté, le système, il s'en va, puis organisez-vous. Puis qu'ils trouvent ça quand même difficile aussi de se retrouver un peu laissé à eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pensez que ça prendrait? Est-ce que vous voudriez que le système soit là plus longtemps, même après que le jugement d'adoption a été porté, ou qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être aidant?
Bien, moi, pour vous dire la vérité, pourquoi mon projet d'adoption est sans cesse repoussé, c'est entre autres parce que le système estimait qu'on avait encore besoin de soutien.
Okay.
Donc, ils ont décidé de repousser pour nous soutenir pendant un certain temps. Et j'ai la chance d'être avec des intervenants qui travaillent déjà à la transition vers des services dans d'autres systèmes, comme au CLSC, par exemple. Donc, mais je pense que c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut que le système de la DPJ ait les moyens de travailler avec nous vers la transition. Et ça n'a pas toujours lieu. Et c'est, on le sait, hein, les DPJ, c'est régional. C'est extrêmement différent d'une région à l'autre. Moi, j'ai changé de région. J'ai pu voir la différence. Quand j'étais dans mon ancienne région, en Outaouais, il y a beaucoup moins de services disponibles. On n'a jamais eu les moyens en Outaouais de me soutenir dans ce qu'on vivait à la maison. Et je suis arrivée à Montréal et en l'espace de 2 semaines, j'avais une éducatrice à la maison, un rendez-vous avec un pédiatre. C'était comme ça a été. Et là, il y a une inégalité qu'il faudrait aussi questionner comme société. Tu sais. Donc, c'est ça. Mais je pense que ce serait ça l'idéal. Ce serait qu'il y ait des espèces de vases communicants. Que si on a un soutien d'une psychoéducatrice, par exemple, par la DPJ, que le jour où notre lien cesse avec la DPJ, qu'on puisse passer au CLSC et être suivi à ce moment-là.
Bien, je suis quand même d'accord avec ce que tu dis. Puis, tu sais, à Emmanuel, c'est un peu ce qu'on essaye de faire, le avant-placement, durant. Tu sais, souvent, je suis là aux propositions. Tu sais, on fait le pont quand l'enfant arrive, mais tu sais, on ne sortira pas comme la DPJ. Tu sais, une fois que l'adoption est prononcée, on reste là T'sais, moi, je dis à la blague à mes familles, on est là tant si longtemps que vous voulez de nous, mais c'est un peu ça quand même. T'sais, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir avoir réponse à toutes leurs questions ou tous leurs besoins, malheureusement, mais au moins, on installe un filet de sécurité qui fait qu'on peut référer aux bonnes personnes s'ils ont besoin, parce qu'effectivement, il y a certains dossiers dans lesquels on me sollicite en me disant, bien, c'est des dossiers qui risquent d'aller rapidement, c'est un enfant qui a des besoins particuliers, puis peut-être que dans 6 mois, on irait vers une adoption, d'accord, mais ça va être quoi le soutien offert à cette famille-là pour ses besoins particuliers-là? Donc, tu sais, comme filet de sécurité, je pense qu'il faut qu'il y ait autre chose, effectivement, qui soit mis en place puis qui soit mis autour de ces familles-là, là, parce que sinon, ça peut aller à la dérive assez facilement. Là.
C'est ça. Puis qui dit enfant en besoin particulier, tu sais, ça veut dire on a besoin de spécialistes, d'ergothérapeutes peut-être, d'éducateurs spécialisés, orthophonistes.
De répit.
Oui, bien c'est ça, j'allais dire. Au milieu de tout ça, là, le parent qui se promène d'un bord puis de l'autre pour soutenir l'enfant, c'est ça. Je pense que le parent, parfois, est peut-être oublié aussi...
Bien, puis ça, c'est une autre critique que je pourrais faire, sauf que moi, je trouve qu'on accepte à la DPJ des projets de parentalité solo-parentale, mais on n'est pas toujours prêt à bouger nos normes. Comme par exemple, le fameux cocon qu'on doit faire lorsque l'enfant arrive. On est tenu au même cocon, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'avoir d'aide. Mais on est tout seul, là. Tu te retrouves un adulte tout seul avec un bébé. Puis moi, bon, je suis trop bon élève, j'ai rien demandé, puis j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire, mais j'ai des amis qui ont demandé est-ce que je peux faire rentrer la grand-mère dans mon cocon.
Vous avez eu un 6 mois, juste pour ceux qui se connaissent moins. Dans le fond, c'est un 6 mois environ.
Moi, on m'a demandé juste un mois, chance, parce que j'aurais jamais... Il y a des gens qui font un 3 mois tout seul chez eux avec un bébé. Je veux dire, c'est pas... Puis moi, j'ai trouvé que quand je suis sortie du cocon, il y a quelque chose qui est devenu vrai. De voir notre famille dans les yeux des gens... Ça aide à comprendre ce qui t'arrive. Quand t'es tout seul chez vous, avec un enfant qui parle pas encore, t'es pris dans des tâches, t'es débordé par les émotions. Moi, je faisais venir mes amis le soir quand elles dormaient, puis je braillais sur leur épaule pendant... L'idée du cocon, c'est que c'est toi qui dois donner les soins, mais toi, t'as besoin de soins. Comme parent adoptant, qui te les donne, ces soins-là? Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une ouverture là-dessus, parce que moi, j'ai connu des gens qui ont eu des débuts d'aventure extrêmement dramatiques parce qu'on leur a refusé d'accueillir quelqu'un dans leur bulle, tu sais, puis qui auraient vraiment eu besoin de soutien.
Puis, tu sais, je vais faire du pouce un peu peut-être sur une histoire plus personnelle, mais, tu sais, on a eu notre cocotte, puis par la suite, on a accueilli un petit garçon qui est resté avec nous 1 an, qui est retourné dans sa famille, bref. Puis, ce coco-là, quand il est parti... Tu sais, trois semaines plus tard à peu près, j'ai dit à l'intervenante de ma cocotte, j'ai dit, tu sais, il n'y a personne qui a pris le téléphone pour savoir comment on allait. Tu sais, la famille aurait pu être en train d'exploser, puis personne à la DPJ a jugé bon de nous appeler pour dire, hey, vous allez comment parce que Coco est parti. Tu sais? Donc, tu sais, tu disais... Excuse-moi, je te coupe. Mais tu disais, tu sais, on prend soin de l'enfant. Tu sais, comme parent adoptant, on a une énorme pression de dire « faut performer, faut être bon ». La DPJ est là pour regarder un peu, tu sais, que ça se passe bien et tout. Donc, tu sais, faut être bon, faut donner les bons soins, faut que cet enfant-là évolue bien, etc., etc. Mais qui prend soin du parent?
Je raconte cette scène-là dans mon livre Noué, mais... Moi, le jour où ma fille est arrivée chez moi, je l'avais fréquentée 2 semaines dans son autre famille d'accueil, elle arrive chez moi, mon intervenante part en congé de maladie ce jour-là, et quelques jours plus tard, je me retrouve dans un bureau du centre de service où je dois aller mener ma fille à une rencontre avec sa mère biologique, et donc je suis seule quand je rencontre sa mère biologique. Personne, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais ce que j'ai le droit de dire, je ne sais rien, je la reconnais parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, donc je la reconnais, là, mais c'est horrible de laisser quelqu'un... Je veux dire, c'est une situation extrêmement délicate. C'est la première fois que tu vis ça, parce que ça n'arrive pas si souvent.
Oui.
Puis moi, c'est pareil. Donc, pendant 1 mois et demi, après l'arrivée de ma fille, je n'ai eu de nouvelles de personne.
Wow.
J'étais seule, c'était la période de Noël. Personne m'a appelée. Mon intervenante était en congé de maladie, elle n'était pas remplacée. Personne ne m'a demandé comment ça allait. Puis là, un jour, ils m'ont appelé, ils disaient, hey, là, vous avez besoin de remplir des papiers si vous voulez être payé. Ben oui, j'attendais comme qu'on me fasse signe.
Oui, bien c'est ça, il y a un peu un non-sens. Le système dit, on a besoin de famille, on a besoin de famille, on a besoin de famille, mais on ne prend pas soin de ces familles-là qui font ce choix-là.
On prend pas soin des familles biologiques, on prend pas soin des familles, on prend pas soin de ce système-là. En fait, on en revient toujours au même. Là, à un moment donné, j'espère qu'il y aura des suites à la commission Laurent, mais c'est ça, tu sais, il faut arriver à prendre soin de l'ensemble de cet écosystème-là.
Sauf qu'encore là, c'est pas la faute des intervenants, tu sais, je le répète, ils font un travail vraiment hors pair, mais c'est vrai, tu sais, je travaille dans le quotidien avec eux autres, puis ils travaillent vraiment très fort pour tous ces enfants-là, tu sais, mais c'est le système au-dessus d'eux.
Ben oui. Ben non, parce que quand une intervenante te dit, je dis intervenante parce que c'est souvent des femmes, mais quand elle te dit « je quitte », tu peux pas lui dire « je te comprends pas
». Ben non, je suis pas d'accord.
C'est ça.
Est-ce que, de justement, de voir cette petite fille-là grandir avec vous, etc., de... comment je pourrais dire? Y a-tu dans votre entourage des gens qui, pour eux, ça fait pas nécessairement de sens, votre projet, ou qui se disent... OK, ça fait 5 ans, justement, qu'elle est avec toi, mais t'es pas encore officiellement la mère, t'as pas... Tu sais, si tu veux l'emmener se faire couper les cheveux, t'as pas le droit. Est-ce que, des fois, vous sentez un jugement de l'extérieur? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites pas parce que vous dites, ah, les gens, ils peuvent juste pas comprendre, tu sais, ça fait des années qu'elle est avec moi, mais, tu sais, pour la moindre petite décision, c'est long, fastidieux, alors que ça devrait pas l'être autant?
J'en parle assez peu, honnêtement. Puis là, je suis rendue à un stade où je sens plus... Justement, quand on me dit « Ah, vous ressemble tellement », je sens pas le besoin de raconter notre vie. Là, je fais comme « Ah ouais, elle me ressemble tellement ». j'ai comme plus le besoin de, tu sais, je sais pas, là, de mettre ça de l'avant. Elle vieillit aussi, je me dis, c'est son histoire, ça devient un peu son choix, si elle veut qu'on en parle ou non de notre histoire, tu sais. Donc non, je sens beaucoup de jugements, parfois hâtifs et parfois faciles, contre la DPJ. Donc quand je raconte des choses, rapidement, les gens qui finalement ils connaissent rien vont être comme au système tout croche, c'est n'importe quoi. Tu sais, à la limite, je dirais que la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi je ne l'ai pas adopté au jour 1, pourquoi on ne me l'a pas donné, coupé de tous les liens. Il y a beaucoup de jugements sur les parents biologiques aussi. Moi, ça, je trouve ça très dur. Puis moi, c'est interdit près de ma fille. Ça arrive moins maintenant qu'elle est plus grande, mais quand elle était jeune, c'était courant là, que les gens se permettaient de parler de ce qu'ils ignorent complètement, c'est-à-dire de ce qu'ils s'imaginent, de ce que pouvait être sa famille naturelle. Moi, ça, c'est interdit. T'sais. On ne discrimine pas la famille naturelle de ma fille près d'elle. Donc, c'est plutôt ça. C'est pas tellement contre moi. C'est ça, quand les gens disent courage, je pense que c'est de ça dont ils parlent. T'sais, t'es courageuse de faire face à tout ce système, à tout... Puis ils ont... Oui, c'est vrai, mais il reste que la plupart des gens ne comprennent pas. Il y a des normes très sévères à la DPJ, puis les gens les trouvent absurdes, ces normes-là, mais quand tu leur expliques d'où elles viennent, là, ils comprennent mieux.
Puis, tu sais, votre enfant, justement, des fois, on parle aussi, je pense, peut-être de courage, parce que on l'a nommé au début, mais tu sais, on a l'impression que ça va être tout le temps un enfant monstre, là, entre guillemets, parce que des enfants monstres, on s'entend qu'il y a quelque chose là, sous ce comportement-là, tu sais, puis que c'est pas... On peut pas qualifier nécessairement un enfant de monstre, mais est-ce que, justement, de pas tout savoir non plus nécessairement, tu sais, oui, vous n'en savez plus parce que c'est pas une adoption internationale, fait que souvent, bon, vous avez un peu plus les antécédents, etc., mais est-ce que, de justement, se retrouver avec un enfant, peut-être, qui va être plus difficile, qui va avoir des problèmes de comportement, qui va vous rejeter, est-ce que il y a des moments de découragement? Est-ce que...
Oh oui. Oui. Il y a des moments de découragement. Il y a des moments où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a surtout des moments où je me suis dit, je ne serai pas capable. Je ne vais pas passer au travers. Puis ça, c'est extrêmement dur parce que c'est ma plus importante promesse que j'ai faite de ma vie. Et donc, c'est vraiment important pour moi d'être capable de la tenir. Puis quand tu te dis, je ne serai pas capable... C'est dur de te regarder dans le miroir. T'sais. Mon livre, oui, c'est sur la culpabilité, mais il y a beaucoup de culpabilité là-dedans. C'est drôle, hein, il y a un enseignant de ma fille, une fois, qui m'a dit... je m'excuse de vous dire ça, mais je ne sais pas comment vous faites. Toute seule, en plus. Puis il était très mal de me dire ça, puis ça m'a fait tellement de bien. Parce que... Honnêtement, je finissais par me dire, c'est moi qui n'aurais pas dû être mère. Mais tu sais, tu finis par te dire, j'avais pas ce qu'il fallait pour faire face à ça. tout en étant consciente que, tu sais, c'est tellement de souffrance. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner la dame. À un moment donné, tu dis, je serais plus capable. Puis, ben là, les choses se placent, puis on reprend espoir, puis, tu sais... Je pense surtout que... Tu sais, moi, une chose que je réalise, je côtoie beaucoup de familles adoptantes. Presque tous les enfants ont des enjeux d'attachement. Peu importe l'âge à laquelle on les a adoptés. Et ça, je pense qu'on le comprend pas assez avant de s'embarquer dans le programme. Finalement, j'en connais presque pas de parents adoptants qui n'ont pas à dealer avec ça sous une forme ou une autre. L'ampleur que ça peut avoir, les différentes formes que ça prend. C'est comme si c'est quelque chose qu'on sait plus théoriquement, mais je ne suis pas sûre qu'on en prend la mesure. Fait que c'est ça. Puis c'est sûr que quand elle est fâchée puis qu'elle dit « je veux changer de famille », mais ça n'a pas tout à fait la même portée que ça aurait dans une famille biologique parce qu'elle sait qu'elle a changé de famille souvent. Fait que si elle dit, c'est qu'elle comprend ce qu'elle dit, même si je sais bien qu'elle ne pense pas. Mais, tu sais, c'est ça.
Ouais.
Fait que c'est sûr, mais reste que, tu sais, au bout du compte, c'est surtout un amour incroyable, un projet pas possible qu'on bâtit à deux, une complicité. Tu sais, au bout du compte, c'est ça qu'on retient.
Ouais. Tu sais, dans la balance, on parle beaucoup de lacunes, de système et tout depuis le départ, mais tu sais, dans la balance, tu sais, le positif pèse quand même plus lourd que le négatif dans la majorité des histoires, tu sais. Puis c'est sûr qu'au niveau des enjeux d'attachement, ça fait partie un peu, mais ça fait partie de l'adoption, point aussi, tu sais, des enfants qui ont été déracinés, qui ont été changés de milieu, est-ce que ça se peut qu'il y ait plus de crainte de s'attacher? C'est sûr que oui, ça ne veut pas dire que tous les enfants vont finir avec un trouble d'attachement diagnostiqué. Non, ben non. Mais tu sais, est-ce qu'il risque d'y avoir des enjeux? Certainement.
Et ça, les gens ne comprennent pas. Là, il y a vraiment... Moi, je dois souvent... Ma fille, son problème d'attachement s'exprime surtout par de l'hypersociabilité. Elle n'a pas de filtre. Elle magazine des familles, en fait, dans les parcs. Puis, donc, des fois, il faut que j'intervienne. Parce que là, ça dépasse les bornes. Entre autres, elle s'invite dans les pique-niques des gens. Là, je passe vraiment pour la mère folle. J'ai vraiment l'air... Là, tu n'as pas envie de raconter ta vie à tout le monde. Ils me disent, « Ah, oh, mais elle est super gentille. » Là,
ouais.
C'est parce que vous savez pas que vous êtes les quatrièmes cette semaine à vivre ça. Puis, tu sais, c'est que... Puis là, tu as toujours un peu l'air... un peu de la mère rigide au bout, tu sais. Fait que ça, les gens comprennent pas, tu sais, ou tu sais, il y a déjà quelqu'un, un moment donné, elle avait fait une grosse crise parce qu'elle avait vu mon auto passer, elle était toute petite, là. J'étais passée devant la garderie, elle a vu mon auto passer, puis j'étais allée faire un U-turn. Donc, mon auto est passé. Écoute, là, les gens me disaient, elle s'en rappellera pas le jour de ses noces. Puis là, j'étais comme, hey, toi, vraiment, tu comprends pas, là, de quoi on parle, là, de comment, au fond d'elle, il y a quelque chose de fragile sur ces questions-là, tu sais. Non, elle se rappellera pas de mon char devant la garderie le jour de ses noces, mais je te jure qu'elle aura pas oublié que...
La peur.
Ce sentiment-là profond d'abandon.
Donc, c'est ça. Fait que ça, les gens comprennent pas beaucoup, ça.
Oui.
On est encore beaucoup... Moi, je suis étonnée de constater que beaucoup de gens sont encore beaucoup dans l'idée que ce qui s'est passé dans la toute petite enfance ne laisserait pas de traces. Tu sais, avec tout ce qu'on sait du développement maintenant, je suis quand même étonnée de voir que beaucoup de gens me disent « Mais elle ne se rappelle pas de ça. » Non, mais ce n'est pas la question. C'est qu'elle est profondément marquée.
Ça a un impact.
C'est ça. On le sait, l'attachement continu, les premiers mois de la vie, c'est une clé là, du développement. Fait que oui, là-dessus, il y a beaucoup de préjugés encore. Puis là, nous, ça donne l'impression qu'on est des parents comme surinvestis, un peu free, qui voient des bébites partout.
Oui, dans vos interventions. Mais est-ce que, justement, est-ce qu'on en parle assez sur la place publique de ces adoptions-là, de ce qui est vécu, tu sais, des belles histoires, des histoires plus difficiles? Est-ce qu'on en entend, mais est-ce qu'on devrait en entendre plus?
On n'en parle presque pas. Les gens ont encore l'impression que l'adoption, c'est surtout l'adoption internationale. Là, je trouve que depuis 2-3 ans, là, ça change un peu. Là. Quand je parle de ce processus-là, tout le monde me dit « Ah oui, j'ai un cousin qui est... » On voit que ça... Mais non, il y a moi, je pense qu'il y a une omerta, entre autres, parce que ça me prend un certain courage d'être ici et de vous parler, Maritza, puisque je suis encore sous l'égide de la DPJ, parce que, je le disais tantôt, c'est une boîte qui fonctionne beaucoup dans le silence. Mm-hmm. Puis on n'aime pas bien ça quand les familles d'accueil s'expriment sur la place publique.
Ouais.
Même si c'est pas pour vouloir démolir le temple, c'est pas super bien vu. Donc, c'est ça.
Oui. Est-ce que vous pensez que votre histoire a donné le goût à d'autres personnes de votre entourage de se lancer dans l'aventure?
J'hésite parce que je suis pas sûre que ça leur a donné... Ben oui, dans un cas, oui.
Oui.
Dans le sens où c'est quelqu'un qui y avait déjà pensé, qui avait abandonné l'idée, puis je pense que mon histoire lui a comme redonné le goût. Mais c'est sûr que les gens se tournent beaucoup vers moi maintenant, surtout que moi, j'en parle.
Oui.
Donc là, les gens se tournent beaucoup vers moi et mes amis et les amis de mes amis, quand ils entament un processus, pour pouvoir en parler en amont et pendant. Là. Des fois, j'ai des amis qui m'appellent pour se vider le cœur sur ce qu'ils vivent. Mais oui, ça devient un sujet de conversation. Puis sur Facebook aussi, j'ai rencontré beaucoup de monde qui sont dans le même processus.
Oui, mais merci vraiment d'en parler puis d'être aussi transparente de la façon que vous le faites. Puis justement, de briser un peu cet isolement-là que vivent beaucoup de personnes comme vous qui ont fait le projet, soit en solo ou même en couple aussi. Il y a aussi des embûches là, que les couples peuvent vivre. Sarah, est-ce que vous avez l'impression que le projet d'adoption est aussi, j'allais dire, populaire, mais pas peut-être le bon mot, mais est-ce que en ce moment, est-ce que vous sentez qu'il y a des gens prêts à se lancer dans cette aventure-là autant qu'avant, ou est-ce que ça l'a un peu changé? Est-ce que...
Autant qu'avant. Je pense qu'il y a toujours des gens, tu sais, qui vont être ouverts à ces histoires-là, puis à ces cocos-là, puis... Est-ce que c'est plus qu'avant? J'ai de la difficulté à répondre à cette question-là, mais oui, il y a des gens qui ont cette ouverture-là. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, je travaille un petit peu plus avec les enfants qui ont des besoins particuliers, là, pour lesquels la DPJ a de la difficulté à trouver des familles, donc c'est difficile. Mais, tu sais, il y en a des belles histoires, là, tu sais, avant de rentrer en onde. Tu sais, j'ai une famille qui a accepté une fratrie de deux enfants de 3 ans et demi, là, qu'on pensait jamais arriver à placer. Fait que, est-ce qu'il y a des belles histoires? Ben oui, tu sais, il y en a plusieurs belles histoires, mais est-ce que c'est fait pour tout le monde? Mm-hmm. La réponse, c'est non. Mm-hmm.
Ouais.
Mais c'est sûr qu'il y a des nouveaux profils aussi. Je pense que les parents solo-parentales, je dis parents parce qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi en solo qui le font. Vrai. Ça s'est vraiment augmenté dans les dernières années. Puis évidemment, les couples homoparentales aussi, qui souvent, c'est leur seul accès à l'adoption. Donc, moi, j'en vois beaucoup autour de moi là, qui passent par ces programmes-là. Moi, je pense que c'est là, mais c'est sûr qu'il y a des gens pour qui... T'sais. Puis moi, quand les gens me disent « ça me fait trop peur », le potentiel retour. Moi, j'en ai connu des gens de près qui ont vécu Sarah, le retour. Faut que tu sois sûre d'être capable de faire face à ça. Moi, j'ai eu peur, comme tout parent, j'ai eu peur. Mais j'ai toujours su que ça ne me briserait pas. J'ai toujours su que je t'ai rendue dans ma vie à une étape où je serais capable de faire face à ça en adulte. Puis d'accueillir ce qui s'en venait, tu sais. J'aurais eu une peine infinie.
Oui, c'est un deuil quand même.
Il faut que tu sois capable de faire face à ça. C'est nécessaire, tu sais. Parce que sinon, tu pourras pas t'embarquer là-dedans sereinement, puis tu seras pas capable de créer cet attachement-là dont on parlait tantôt. Parce que tu vas être bien trop ses breaks, tu sais. Fait que ça...
Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Puis tu sais, c'est un deuil. Tu disais, Maritza, c'est un deuil. Moi, je disais, c'est plus qu'un deuil parce que tu as le deuil de dire, bien, cet enfant-là, il quitte, il fera plus partie de notre famille. Mais tu as aussi, ça vient aussi avec son lot de craintes. Tu sais, il retourne dans son milieu duquel il a été retiré. Donc, est-ce que cet enfant-là va être en sécurité? Est-ce qu'il va avoir faim?
C'est ça, ce que je vais l'entendre dans les nouvelles la semaine prochaine.
C'est jamais. Est-ce qu'il va revenir dans le système de la DPJ dans un an, dans deux ans? Il y a des belles histoires aussi là, où ça fonctionne, le retour dans la famille biologique, mais il y a des histoires aussi où ça ne fonctionne pas, tu sais. Fait que tu as ton deuil à vivre, mais plus toutes les craintes qui sont autour aussi. Là. Donc, presque un double deuil, je pense.
Donc, juste pour conclure, empathie, patience, une petite dose de courage quand même.
De résilience. Mais c'est ça, c'est pas, peut-être, mais c'est juste que ça sera pas la dominante dans votre vie, c'est pas ça, tu sais. C'est de l'amour, puis c'est ça, nous, notre parentalité, elle exige de remplir à la main un formulaire cheap à chaque mois que tu comprends pas pourquoi ils sont pas informatisés, ces maudits formulaires-là. Tu sais, faut comme être prêt à faire face à ça. C'est espèce de c'est quoi ce système? C'est ça, faut voir que c'est une immense machine. Puis chaque cas est différent. Donc, ils n'en ont pas de réponse à vos questions insistantes sur combien de mois ça... Ils le savent pas. Fait qu'il faut comme accepter de se laisser un peu porter par la vague. Puis on nous dit « concentrez-vous sur l'enfant », c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner.
Oui. Puis tu sais, je pense que... Tu sais, je dirais pas courage, mais clairement dévouement, par contre. Ça, c'est un incontournable.
Empathie, patience, dévouement... Soutien.
Amour.
Préparez-vous à ce que votre charge mentale soit obèse là, pendant plusieurs années. Tu sais, c'est comme si ça... Il faut être prêt à ça. Tu sais.
Oui.
Effectivement.
Un grand merci à vous deux, vraiment.
Merci, Marie.
Pour ce bel échange.
Merci.
Ce balado est une production du Comité de concertation Adoption Québec. On collaborait à cet épisode, Catherine Voyer-Léger et Sarah Paquin comme invitées. Maritza Bossé-Pelcha à l'animation. Léa Villalba à la recherche, Louis-Philippe Labrèche à la voix, la coordination de production et la production déléguée pour le compte de la coop de contenu, et Hugues Bouchard à la réalisation pour le ministère. Suivez-nous pour découvrir des histoires d'adoption de nos autres invités sur votre plateforme de balado préférée.